Bonsoir, vous écoutez bien Radio Canu, 102.2 MHz, la plus rebelle des radios. Quand j'aurai calé le micro, ça ira mieux. Sur le 102.2, disais-je, donc ce Canu Info du 14 janvier 2013 avec Michel, le grand retour, et Jean-Pierre dans les studios. On espère Robert, mais on a un souci technique avec le téléphone, s'il m'entend, il sera au courant, qui fait que pour le moment, je ne peux pas le joindre. Voilà, on va démarrer ce Canu Info avec la rubrique internationale. Bon, un incontournable sujet, puisque, enfin, il est franco-international d'ailleurs, puisque c'est quand même pas rien. La France est entrée en guerre, petitement, mais quand même avec ses grands moyens, au Mali, plus une intervention guerrière aussi en Somalie, dont on parlera, mais qui est d'une autre nature. Le Mali, ben, tout le monde se souvient qu'on nous promettait pour dans 6 mois ou quelque chose comme ça, une intervention menée par les pays africains, tous réunis de la CDAO, mais qu'il fallait du temps pour réunir des troupes, des moyens, former les militaires et tout. Bon, pouf, pas de pot, les islamistes qui occupent le Nord, sentant sans doute se préparer cette opération, ont pris tout le monde de vitesse, ils sont montés dans leur pick-up, et ils sont partis à l'attaque du Sud. Il fallait donc réagir très vite. Tout le monde s'accorde à penser que Bamako, à l'heure qu'il est, s'il ne s'était rien passé, serait sans doute occupé, ou du moins la proie de combat. Donc la France s'en est mêlée, la France dispose de militaires, mais c'est pas eux qui sont descendus sur le terrain, elle dispose surtout d'avions et d'hélicoptères. Donc du coup, on a fait décoller ces avions, tantôt du Burkina Faso, aujourd'hui ils partaient même de Saint-Dizier, dans le 52, et ravitaillés en vol, et ils ont été bombardés. Dans un premier temps, donc, ils ont, semble-t-il, bloqué les convois, c'est-à-dire détruits, hein, avec les armes dont ils disposent. C'est pas trop problématique sur une piste au milieu du désert. Et puis aujourd'hui et hier déjà, ils ont attaqué avec des bombes des endroits qui, paraît-il, sont des bases des islamistes en question. On reviendra peut-être sur le contenu des groupes islamistes, puis sur le contexte politique. Donc pour ce qui est des faits, des attaques, pour le moment au sol, pas d'affrontement, mais effectivement l'avancée, la tentative de prendre Bamako est arrêtée, pour l'instant. Il y a beaucoup de choses à dire là autour, mais je vais laisser Michel aussi donner son analyse de la situation.
Oui, bonsoir. Donc la France, ça y est partie en guerre, excusez-moi, j'ai eu un problème technique, est partie en guerre contre les islamistes, appelons-le l'ACMI, la Moujao, ou Ansar, dans un contexte où faut rappeler un peu l'historique, hein, de ces dernières semaines, ces derniers mois, où on était plus dans la recherche d'une solution politique autour d'une table de négociation, par l'entremise donc de la CDAO, mais aussi en voulant impliquer l'Algérie, hein, qui dans le sud a aussi maille à partir donc avec les islamistes. Et on voit là que les choses sont accélérées en moins d'une semaine, hein, pour en arriver à ces bombardements donc systématiques maintenant depuis 4 jours des forces françaises sur les positions du nord détenues par les djihadistes. Que dire d'un, la population de Bamako qui vivait très mal, que plus de 2/3 du territoire n'était plus aux mains donc de ses représentants politiques, donc acclame l'intervention française, une grande partie officiellement donc des pays de la CDAO, donc de l'Afrique de l'Ouest, ancienne colonie française pour la plupart. Quand je dis une grande partie, c'est leurs dirigeants politiques. Quant à l'opinion publique, elle est, selon les pays, plus ou moins partagée. Les avis sont partagés, puisque, bon, pour certains, le danger islamiste est réel. Hein, depuis la chute de Kadhafi en Libye, il y a eu dissémination donc des armes et dissémination des forces islamistes dans toute la région, hein, de la Libye en Mauritanie, en passant par le Niger, le nord du Tchad, le sud de l'Algérie et surtout en Mali. Mais dans le même temps, on peut pas s'empêcher de penser effectivement à des arrière-pensées de la part de la diplomatie française quant à cette intervention-là. Nous l'oublions pas. Avant tout, bon, c'est vrai qu'on a des otages qui sont détenus par les islamistes sur place. Mais avant tout, il était question donc d'arrêter, de couper net l'avancée des islamistes. N'était pas tant en Mali qu'elle posait problème que de les voir de plus en plus donc attenter aux intérêts donc de la France et notamment au Niger. Juste pour rappeler que dans le nord du Niger, à Relit, il y a le plus grand gisement d'uranium de tout le nord de l'Afrique et que cet uranium est à la destination de la France, hein, et qu'il revêt une importance géostratégique primordiale pour les intérêts français. Et donc il fallait couper court donc à ce mouvement islamiste qui commençait à s'établir et à faire tache d'huile dans toute la région. Alors, il est clair, on peut toujours invoquer les finalités humanistes, hein, libérer les otages, se libérer du fascisme islamiste, mais il n'empêche, avant tout, hein, il faut toujours garder raison lorsqu'on regarde un peu ces choses-là, lorsqu'on bombarde, c'est jamais pour des raisons humanistes, hein. On l'a vu au Proche-Orient, on l'a vu dans les Balkans, c'est toujours pour des intérêts. Avant tout pour des intérêts. Donc toujours recontextualiser et se dire que oui, pourquoi la France a intervenu, pourquoi c'est pas les Nations Unies, pourquoi ce n'est pas officiellement l'OTAN. C'est parce que la France est l'ancienne puissance tutélaire, ça reste son précaré. Ces pays-là dans l'Afrique occidentale ont beau être indépendants depuis 1960, ils l'empêchent par le biais de la dette, par le biais des accords bilatéraux. Il reste totalement dépendant donc de la France. Et d'ailleurs, les autres puissances occidentales ne contestent pas du tout donc ce précaré français. En gros, c'est chacun joue, hein, avec ses anciennes colonies ou avec ses zones d'intérêt. Les États-Unis pour l'Amérique du Sud et pour l'Amérique centrale et l'Asie notamment. Les Britanniques avec leur ancienne zone, donc ancienne colonie, et les Français principalement en Afrique de l'Ouest. Voilà.
Ce que tu voulais dire. Oui. Alors, si on se resitue dans les perspectives pour les jours à venir, donc il y a fin de semaine une réunion de la CEDEAO. Alors tout le monde arrive, le Bénin, le Togo, le Niger, le Nigeria, le Sénégal, le Burkina Faso. Dans les apports extérieurs, les Anglais ont déjà mis à disposition 2 avions cargo. Les Américains ont une centaine de drones qui tournent autour sur le Sahel et qui donc contrôlent tout ce qui s'y passe. Les Allemands proposent une aide médicale. Bref, il y a une petite internationalisation de l'action française qui devrait se faire. On rappelle que l'ONU avait effectivement décidé l'action, mais n'a jamais mandaté la France pour se lancer toute seule comme ça. C'est l'argument que développe Mélenchon en disant que sous cet angle-là, il y a un non-respect des engagements pris. Alors après, la question de l'urgence, bien sûr, est de me mettre en balance avec ça. Les conséquences aussi, on commence à se demander en France si ça devrait pas ou ça pourrait pas engendrer une recrudescence du terrorisme. Donc on a monté d'un cran le plan Vigipirate, puisque les islamistes menacent bien sûr de se venger en s'en prenant à tous les intérêts français. Il faut dire aussi qu'il y a, 6000 Français là-bas et que rien que pour la protection de la population française, ça justifiait pour le gouvernement l'intervention et l'arrivée d'un certain nombre de militaires. Il y en a quelques centaines pour le moment, mais ça devrait monter à 2 à 3 000. Quoi. Voilà, donc c'est une affaire qui va pas s'arrêter là. On sait quand une guerre commence, c'était il y a 4 jours, on sait jamais quand elle finit, et quelquefois c'est beaucoup plus long que ce qu'on avait imaginé. Pour le moment, tout le monde est content. Hollande, c'est le sauveur du Mali, il est acclamé là-bas. Il n'est pas dit que d'ici quelques semaines ou quelques mois, les Maliens finissent pas par trouver la présence française un peu trop présente dans leur pays.
Alors, sans qu'il y ait pour autant présence française, c'est se rendre indispensable déjà vis-à-vis d'un État malien totalement déliquescent, avec des forces armées qui sont à peine quelques milliers en état de se battre, hein, pas plus. Hein, c'est la réalité des forces armées maliennes, hein, aujourd'hui. Il est clair que ils sont totalement dépendants donc des forces extérieures. Donc on parle même pas des forces que peut mettre en place la CDAO ou l'Union des pays africains. Par manque de leadership et de commandement, on voit bien effectivement que il y a besoin d'une puissance tutélaire. Donc les Français sont bien contents finalement de jouer ce rôle-là. Tu évoques les États-Unis, donc leur rôle logistique, notamment dans le renseignement et la surveillance. Et il est clair que l'opération française a été menée en concertation directe avec Washington. Paris n'a pas décidé tout seul donc cette opération. Donc il a visé son allié états-unien qui lui a donné son aval et d'ailleurs qui a préparé certainement cette attaque française. Mais il n'empêche, c'est-à-dire on peut se défaire de l'ACMI, de la MJUAO, enfin d'ANSAR, mais le problème même, c'est l'État malien pour la Mali. Si on en arrivait là, c'est que oui. L'État n'avait plus aucune crédibilité. Le semblant, le paravent démocratique malien ne valait plus grand-chose. Enfin, les dernières élections, juste pour rappeler, rassemblaient moins d'un quart de la population qui se déplaçait pour voter. Donc, autant dire que on n'y croit plus. Donc, à cette démocratie de clientélisme totalement corrompu.
Oui, puis la situation politique est particulièrement instable. Le dernier avatar, c'est il y a 3 semaines, là, quand le capitaine Salogo a déposé le premier ministre et en a mis un autre, mais au mois de mars, il y avait déjà eu un coup d'État. Enfin, c'est un pays qui, politiquement, est dans une situation, militairement aussi, on l'a dit, et politiquement, est dans une situation affolante, quoi. Enfin, c'est... Et alors, est-ce que tout ça va permettre de recadrer un peu les choses et de remettre en place un pouvoir politique qui tienne sa place? On peut aussi se le demander.
Oui, alors, quel pouvoir politique? Imaginons le meilleur des scénarios, à savoir que les forces françaises, en un laps de temps relativement court, mettent à mal ou détruisent totalement les capacités des forces islamistes présentes sur place. Que donc l'État malien recouvre la souveraineté sur l'ensemble de son territoire. Donc de nouveau, qu'il arrive dans le nord. Que va-t-il se passer? La population va-t-elle les accueillir à bras ouverts? N'oublions pas effectivement que pour autant la population du nord est acquise à l'indépendance, pour ne pas dire à une autonomie très substantive. Donc il est clair que eux, vu du nord, Bamako, ils ne veulent plus être gérés, ils ne veulent plus de cette gouvernance telle qu'ils la connaissaient les années précédentes. Donc le problème ne change pas pour la population, ô combien même effectivement on se défait des islamistes. Donc ça, c'est la première des choses. Et deuxième aspect, c'est-à-dire qu'on a du mal à croire effectivement que les forces islamistes puissent disparaître, puissent être totalement anéanties. elles ont le soutien aussi, faut pas se leurrer, d'une certaine part de la population, et pas seulement dans le nord Mali, hein, ça court de la Mauritanie jusqu'en Libye. C'est un territoire qui est très peuplé, mais qui est vaste, avec des frontières très poreuses, donc difficilement contrôlables. S'ils sont défaits, ils vont se replier en Mauritanie, dans le sud de l'Algérie, au Niger, et referont leurs forces. Il y a plusieurs aspects face à cette montée de l'islamisme dans la région, à savoir qui finance réellement les islamistes. Les Algériens accusent effectivement le Maroc de financer le Mujahao, donc pour instaurer donc une sorte de conflit larvé dans le sud de leur pays, chose que font les Algériens en finançant le Polisario pour le Sahara occidental. Donc voilà, c'est un prêté pour un rendu. On soupçonne les Qatariens donc de financer Al-Ansar, donc dans la région. Là aussi, il faut que les choses soient un peu clarifiées avant d'entreprendre des actions armées. Pour l'instant, voilà, on est dans le feu de l'action. Il y a un consensus politique chez nous, gauche-droite, pour approuver, peut-être sauf Monsieur Mélenchon, mais pour approuver ce bombardement.
Accepter, ou...
Voilà, tout à fait. Mais il n'empêche, la France ne pourra pas contrôler ce pays. Cette zone est trop vaste. C'est une certitude, c'est une pour tout le monde, hein, pour tous les militaires présents dans la région, qu'ils soient français, qu'ils soient algériens, qu'ils soient nigériens. On sait que le problème de l'islamisme ne sera pas résolu exclusivement donc par l'option militaire.
Alors, un mot aussi d'un aspect de cette histoire, c'est qu'on est en train de faire le SAV de Sarkozy, là, hein, puisque il y a un lien évident entre le fait de tous ces combattants islamistes débarquant en Mauritanie après qu'ils aient été chassés de la Libye avec la chute de Kadhafi, quoi. Donc c'est le deuxième temps de l'action de Sarkozy, ça. Quoi.
Tout à fait, et juste à rappeler que les islamistes sont présents militairement dans le sud de la Libye, dans la région du Fezzan. Et non seulement on soupçonne les islamistes aujourd'hui présents au Mali de venir avec la logistique depuis le sud de la Libye, en passant les frontières algériennes et nigériennes, mais dans le même temps, ça reste un chemin d'avitaillement, une route d'avitaillement, donc pour les forces de l'ACMI et d'autres présentes dans le nord Mali.
Allez, un mot de la Somalie, puisque hasard du calendrier, une attaque qui était organisée prévue depuis quelques semaines pour délivrer un agent de la GSE retenu depuis quand même 2 ans et demi ou 3 ans par d'autres groupes islamistes en Somalie, a bien eu lieu. Une cinquantaine d'hommes, 5 hélicoptères, débarquant de nuit à proximité de l'endroit où avait été localisé l'otage. Mais des militaires ont été surpris par la riposte qu'ils espéraient moins rapide et moins violente. Et du coup, l'otage n'a pas été sauvé. Il y aurait, semble-t-il, 2 militaires français de tués et puis un certain nombre de l'autre côté aussi des combattants islamistes. Alors, échec ou pas échec, je ne sais pas. C'est une opération de la GGSE pour récupérer un de ses agents qui n'a pas réussi, on peut dire au moins, dans un pays où là aussi la situation est complètement incontrôlée.
La situation est incontrôlée, là aussi, échec ou pas échec, oui, il y a échec, là, puisque le bus était récupéré, donc cet agent de la français tenu par ce groupe islamiste, là aussi en Somalie, ils n'ont pas réussi. Et là aussi, ce qui est à noter, c'est ils ont été naïfs, et ils ont fait preuve d'un manque d'analyse. Ils ont débarqué apparemment avec 5-6 hélicoptères à quelques kilomètres du lieu donc de détention de l'otage français, et pensant effectivement qu'ils allaient pouvoir parcourir ces derniers kilomètres tranquillement et prendre par surprise ces rebelles. Il n'en a rien été. La population locale a prévenu aussitôt donc ces hommes en armes qui les attendaient de pied ferme. Et c'est la difficulté effectivement de croire effectivement que là aussi donc ces combattants sont des vus comme des terroristes, donc totalement isolés de la société dans laquelle, effectivement, ils manœuvrent. Donc, c'est là aussi, il faut prendre en compte que ce qu'on traite comme du terrorisme, que ça nous plaise ou pas, islamiste, que ça nous plaise ou pas, bien souvent, ils sont totalement donc au sein, donc ils sont totalement intégrés au sein des sociétés dans lesquelles, effectivement, ils œuvrent.
Ouais, alors là, Obama aurait été meilleur que Hollande sur ce genre d'opération, parce qu'il avait, c'était largement aussi risqué ce qu'il a fait avec Ben Laden, quoi. Ils avaient réussi.
Oui, tout à fait, mais bon, alors d'autres circonstances là aussi concernant ce qu'il a fait avec Ben Laden. On ne sait pas exactement ce qui s'est passé. Toujours est-il que dans Ben Laden officiellement, Ben Laden se cachait. Ses voisins ne savaient pas effectivement qu'il était présent dans cette maison. Là, c'est différent. Là, on a effectivement un groupe armé qui est concentré, connaissance de tous, effectivement, dans les villages environnants, et avec le soutien aussi de la population locale. Donc les circonstances ne sont pas non plus les mêmes.
Ouais, là où le scénario se ressemble, c'est qu'on va sur un mec, pour un mec, des hélicos en opération non annoncée, et dans un cas ça a marché, dans l'autre l'opération n'a pas réussi.
Tout à fait. Alors, juste ajouter, si on regrette effectivement de ne pas avoir libéré l'otage, et si on ne connaît pas encore son sort, on parle effectivement qu'il a été exécuté, qu'il est en attente de son jugement, de pseudo-jugement, toujours est-il qu'on sait qu'il y a un soldat français qui a été tué, un autre qui aurait été blessé, mais qui aurait succombé entre-temps à ses blessures. Mais on apprend aussi que 8 civils donc ont été tués, de toute évidence, par les forces françaises. Hein. Quand on parle de civils, on parle de femmes et d'enfants. Donc là aussi, les détails ne sont pas très très clairs, surtout que ces civils auraient été tués, non pas sur les lieux de détention, mais bien en amont.
Voilà pour ces deux sujets. Peut-être as-tu un ou plusieurs autres sujets dont tu as envie de dire quelque chose, hein?
International.
Oui, préférence, mais bon. Enfin, comme il y a longtemps que tu n'es pas intervenu, je me suis dit, il y a peut-être des sujets en réserve.
Non,
non, rien de spécial.
Non, rien de spécial.
Mais si ce n'est, on fait la pause musicale, puis on se retrouve juste après. On va la faire avec, c'est sans rapport avec l'actualité, mais Jean-Marie Loubry, chanteur dont on apprécie un petit peu le travail et le talent, nous a fait passer une chanson toute nouvelle, inédite. Alors, une nouvelle création, on vous la donne à écouter au 101 de la rue Voltaire.
De la rue Voltaire, dans la ville de Saint-Quentin, je m'arrêtais solitaire, comme aimanté par le destin, à l'orée de mes 20 ans, garçon timide n'osait frapper à cette porte, moi débutant en singulier remélopée. C'était un studio de musique où se pressent les imprudents, un de ces endroits magiques, 12 écrins pour rêve d'enfant. Je respirais mes chansonnettes, mais mon budget d'étudiant n'autorisait aucune fête, me poussait à des expédients. Au 101 de la rue Voltaire, avec mon ami le plus sûr, nous fûmes la démarche salutaire, mal à l'aise dans nos chaussures. Le monsieur vint nous ouvrir, dans son regard, rien de méchant. J'avais le trac, j'ai cru mourir, quand j'ai interprété mon chant. Il m'a dit, c'est pas mal du tout, il y a du sens et de la rime, vous possédez bien des atouts, les variétés dans le chagrin. Je ne prendrai le moindre argent et me paierai alimentaire avec les disques de ces gens qui feraient bien mieux de se taire. Au 101 de la rue Voltaire. Lorsque j'y repasse, à présent, plus de studio, sans commentaire, le temps n'est plus aux artisans. Je pense souvent à cet homme qui m'offrit le micro-sillon, le tout premier, oh oui, c'est comme la première fille, quelle émotion. Monsieur, je n'ai pu vous rendre tous ces trésors, tous ces bienfaits. Votre patience à s'y méprendre, tel un frère, vous m'avez guidé. Acceptez ce bel hommage, ces quelques notes récitées d'un troubadour à votre image, fidèle jusqu'à l'éternité. Monsieur, je n'ai pu vous rendre tous ces trésors, tous ces bienfaits. Votre patience à s'y méprendre, tel un frère, vous m'avez guidé. Acceptez ce bel hommage, ces quelques notes récitées d'un troubadour à votre image, fidèle jusqu'à l'éternité.
Un cadeau de Nouvel An de Jean-Marie Loubry pour Radio Canu, au 101 de la rue Voltaire, une création qu'on vous a proposée. Vous écoutez bien Radio Canu, 102.2 MHz, de Canu Info du 14 janvier 2013, avec Michel Jean-Pierre dans les studios. Et normalement, si tout se passe bien, il n'y a pas de raison cette fois, Robert en duplex, tu es là ?
Oui, je suis là.
Formidable. Oui. Eh bien alors, ouvre-nous ce jour, cette partie nationale du Canu Info.
Mais je vais peut-être plutôt fermer la plage précédente en rappelant que du côté de Jérusalem-Est, les choses se passent comme d'habitude, très mal. Les Palestiniens de Cisjordanie avaient occupé une terre que les Israéliens destinaient à la construction d'une nouvelle colonie. Et cette nouvelle colonie aurait pratiquement coupé Jérusalem-Est de la Cisjordanie. Donc les Palestiniens de Cisjordanie, un mouvement pacifique, avaient décidé d'occuper le terrain. Ils en ont été chassés avec violence, il y a eu des blessés. Bon, il n'y a pas eu de mort. On ne sait pas s'il y a eu des prisonniers, parce que généralement dans ces cas-là, Israël fait également des prisonniers. Mais toujours est-il que c'est à nouveau ce que, en toute discrétion, les Israéliens mènent, à savoir élargir la surface, leur périmètre territorial. Voilà.
Voilà. Bon, ben, on va embrouiller sur la France. Il y a un sujet qui est vendredi, donc les négociations sur l'amélioration, entre guillemets, des conditions de travail se sont terminées. On a craint longtemps qu'il y ait un échec et que le gouvernement doive légiférer. Finalement, il n'y a pas eu d'échec. Il y a eu un accord, un drôle d'accord, puisque la CGT est faux son compte, mais la CFDT est d'accord. Il reste donc cet accord à le valider au Parlement, et peut-être là il va encore y avoir quelques résistances, parce que on peut bien dire que le MEDEF a obtenu presque tout ce qu'il voulait et qu'il y a très peu de choses dans ces avancées, entre guillemets, à nouveau, qui sont profitables aux travailleurs. Alors, dans les choses qui sont profitables aux travailleurs, le temps partiel ne devrait plus être inférieur à 24 heures par semaine, sauf dans des situations particulières et pour les étudiants de moins de 26 ans. Et ça concerne les entreprises qui ont un tiers de salariés au temps partiel. Le compte personnel de formation devrait être maintenu toute la carrière, c'est-à-dire si vous changez de boîte et que vous aviez acquis des droits à la formation, vous les conservez. C'est un peu pareil pour le chômage, c'est peut-être plus important. Quelqu'un qui reprend un boulot et qui avait des droits à chômage après avoir travaillé longtemps, important. S'il perd ce nouveau boulot au bout de 3 mois ou de 6 mois, eh bien, il conserve ses anciens hein, 3 à chômage, ce qui n'était pas le cas il y a quelques temps encore. Et puis il y a une information normalisée des salariés sur les options stratégiques des boîtes, bof. Sur les contrats courts aussi, il y a une augmentation des ACEDIC, 7% au lieu de 4, et pour les contrats de moins d'un mois, pour les contrats de 1 à 3 mois, 5,5 au lieu d'un 5, et puis 1,5 pour 4,5% sur les CDD d'usage. Ceci dit, les CDI signés pour les moins de 26 ans de 3 à 4 mois sont exonérés de charges. En gros, selon le calcul de journalistes de gauche, dans ces échanges d'avantages et d'inconvénients, les patrons gagnent encore 50 millions d'économies de charges. Donc, on ne peut pas dire qu'ils ont... Et le pire, peut-être, c'est que, en fait, on permet, dans des accords de maintien de l'emploi sur 2 ans, de diminuer les salaires et le temps de travail. Et si le salarié n'est pas d'accord, il ne peut pas s'argumenter de son contrat de travail. Il sera tout simplement licencié. Ceux qui refusent seront virés. Ceux qui acceptent seront conservés pendant 2 ans. On a vu ce que ça donnait avec Clairvoy. Et donc, le patron, à ce moment-là, peut virer sans avoir les obligations des licenciements économiques actuels. C'est dire si ça, c'est lourd quand même pour les travailleurs comme perte d'avantages. Également, la mobilité interne, un patron peut obliger un salarié à changer son poste ou son lieu de travail. Hein, si vous faites déménager à 200 bornes, il faut vous débrouiller pour pouvoir suivre. Avant, c'était le lieu de travail était partie intégrante du contrat. Maintenant, il ne le sera plus. Si le salarié refuse, il sera licencié pour motif personnel avec des obligations moins fortes que pour un licenciement économique. Bref, je pourrais encore vous en donner 2-3 comme ça, mais c'est un peu fastidieux. Néanmoins, ce que j'ai donné quand même est important pour les travailleurs. Il faut qu'ils le sachent ou qu'ils le lisent dans les journaux syndicaux qui vont analyser finement ces pseudo-accords obtenus qui doivent être donc maintenant validés par le pouvoir politique. Peut-être, Michel, tu as une réaction ? Non, ça te laisse de marbre. Robert ?
Oui, en fait, ce qui devait être ce compromis historique, c'est la compromission totale du pouvoir politique et du pouvoir syndical, puisque de ceux qui ont signé, qui vont signer cet accord, à la puissance dominante du capital et du patronat. C'est en fait, en quelque sorte, c'est la mise en forme légale du nouveau code du travail, c'est-à-dire qui met donc en place la précarité. Alors là, c'est vraiment la précarité sous tous ses aspects est abordée avec des petites assurances sociales au sens indemnitaire ou de possibilité de se recaser, mais en fait on est bien dans une situation d'organisation de la précarité et de lui donner un visage un peu moins sauvage, un peu plus digne de ce qu'on pensait être la situation de nos pays européens. Et donc, finalement, d'une certaine manière, c'est la deuxième mort, ou la troisième, je ne sais pas, du CDI, du contrat à durée indéterminée. Je crois que le patronat a obtenu sa mise à mort, et à travers ça, donc, la mise à mort du cadre général du Code du travail. C'était évident ce que recherchait le patronat, s'appuyant sur le chômage qui va s'aggravant chaque mois un peu plus, et sur, donc, le programme d'austérité mis en place par le gouvernement, et donc il fallait un petit peu passer de la pommade pour éviter l'explosion, si cette explosion pouvait bien avoir lieu. J'avais retenu dans un sondage exclusif de l'humanité de la semaine dernière, un sondage IFOP, donc une des grosses boîtes. D'ailleurs, le paradoxe veut que l'ancienne vice-présidente de l'IFOP s'appelait justement Laurence Parisot. Bon, d'ailleurs, on dira un mot d'elle tout à l'heure, bien que ce soit anecdotique. Alors, dans ce sondage, il y avait une remontée de l'appréciation que portait l'ensemble des couches sociales, parce que le sondage ne s'adressait pas seulement aux salariés, aux chômeurs, mais à toute la société. Et en fait, le constat, la question était, est-ce que vous pensez que la lutte des classes aujourd'hui, c'est pour vous quelque chose qui vous apparaît évident? Et alors, le chiffre sorti, c'est 64%, donc on peut dire pratiquement les deux tiers des personnes interrogées, c'est tout le monde, pense que il y a des classes qui, effectivement, sont en lutte. Alors évidemment, on peut avoir une conception de droite, voire d'extrême droite de la lutte des classes, et comme on en a une de la gauche marxiste, etc. Mais ce qui était remarquable, c'est que la même question posée il y a très longtemps, c'était même avant le mouvement de 68, puis en 67. En 67, il y avait plus que 44% seulement des gens qui estimaient que on était dans une situation de lutte de classe. Alors cette perception de la situation des uns et des autres montre d'abord le fossé qui se creuse, et puis aussi pour beaucoup la nécessité effectivement de prendre en compte que les choses vont de mal en pis, et que donc la lutte des classes est bien une donnée centrale aujourd'hui de la situation liée à la précarité et à l'austérité.
Une grosse manifestation hier, manifestation contre les curés pédophiles et en même temps manifestation contre le paradis fiscal du Vatican. Ils étaient plus de 300-400 000 dans les rues. Ah non, on me dit que je me suis trompé. Hein. Non, c'était pas pour ça les manifestations. Et c'était pourquoi? Alors, c'était contre le mariage pour tous. Ah bah tiens, pourtant ils avaient des beaux sujets là qui pouvaient les mobiliser aussi fortement. Alors, manifestation multi, les curés bien sûr et leurs ouailles étaient au premier rang, mais aussi on a vu la droite tenter de récupérer tout ce qui peut aller contre les projets du PS bien sûr, et entre autres...
Et le soutien discret des autres religions hein, qui ne sont pas venues à la manifestation, mais qui ont fait savoir que cette manifestation était intéressante de leur point de vue aussi.
Alors Hollande a dit que certes, elle était consistante, la manifestation, c'est un terme assez original pour une manif, mais que ça n'empêcherait pas de continuer et que donc on va tout droit à la légalisation promise et engagement tenu du mariage pour les couples de même sexe aussi bien que pour les sexes différents. Il n'y aura pas de référendum non plus, que réclame, alors là, on se bat sur des histoires juridiques avec un article 11 de la Constitution qui permet pas de le faire. D'autres disent que si, en lui tordant un petit peu le cou, mais il n'y a pas cette volonté politique, puisque Hollande avait annoncé la couleur avant d'être élu, les gens ont voté pour lui, donc il y a une logique, hein, c'était dans le programme. Ceci dit, on aimerait qu'il soit aussi pointilleux avec toutes les promesses qu'il avait faites pour les réaliser, absolument. Voilà, il y a des choses curieuses là-dedans, parce que Jésus, si on regarde bien, il avait deux papas aussi, hein, alors... Bon, pour les uns, on accepte des choses qu'on n'accepte pas pour les autres. C'est un petit peu curieux, mais tout ça, il ne faut pas vouloir trop gratter. Tu avais quelque chose à dire là-dessus, Robert? Michel aussi, oui. Robert?
Oui, je voulais simplement reprendre cette citation de Jean-Luc Romero. Jean-Luc Romero, c'est un conseiller régional d'Île-de-France, mais c'est un militant associatif de la cause homosexuelle depuis très 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 longtemps, un type formidable qui est classé, qui se classe à droite, mais qui par contre effectivement est en totale rupture avec l'ensemble de son univers politique à lui. Et alors il terminait une, je crois que c'est, oui, c'est dans l'Humanité, et il terminait un petit entretien très court. Il disait ceci, à l'avenir, tout le monde se demandera comment en 2013 la France a pu être aussi réac. Et je crois que c'est bien vu. Quand on pense à ce qui se passe dans les pays voisins, où ce type de débat a été conclu beaucoup plus rapidement et sans qu'il y ait effectivement ce déferlement auquel on assiste.
Voilà, ben Babi et Népal nous ont fait savoir, toujours vivants, qu'ils souhaitaient se marier dans les plus brefs délais. Ils sont de même sexe, hein. Pour donner quelques nouvelles d'eux. Michel, tu avais d'autres infos nationales? La SNCF qui demande ses prix de 2,3%, soit deux fois l'inflation, c'est intéressant ça. Il paraît que le gouvernement va mettre aussi une pression du feu de Dieu pour qu'ils investissent gros dans la rénovation du matériel et même des voies ferrées, puisque c'est le coût de l'entretien des voies qui obligerait à ces augmentations bien au-delà du coût de la vie.
Oui. Bon, concernant les augmentations, c'est vrai, elles sont conséquentes, mais quand on regarde les années précédentes, il n'y a pas non plus scandale. Enfin, ça correspond aux augmentations qui ont cours tous les janvier de chaque année. La SNCF augmente ses tarifs. Alors, il est clair qu'elle a repris à son compte maintenant, enfin, on n'en connaît pas encore la mouture, mais Réseau Ferré de France. Donc l'infrastructure, c'est un budget qui va être lourd. On ne connaît pas non plus l'arrangement qui va être mis en place, puisqu'elle devrait reprendre la dette de RFF. Et il est clair qu'avec le fardeau de la dette, il va falloir que l'argent rentre. Donc pour l'instant, j'ai pas plus d'informations que ça, mais si on situe donc l'augmentation et les tarifs du billet, si on peut parler encore de billet kilométrique, parce que c'est plus le cas vraiment, la SNCF n'est pas plus chère que le réseau allemand, le réseau belge, britannique ou hollandais.
Pourtant, on a l'impression avec ces augmentations annuelles qu'il y a une dérive vers le haut des coûts, enfin... Et finalement, ça revient souvent moins cher de faire un Paris-Nice en avion avec un charter que par le train.
Ça dépend des... Voilà, c'est toujours pareil. Ça dépend quoi, comment. C'est-à-dire, ça revient pas cher avec un charter, comme il ne revient pas cher du tout avec les billets Proms à la SNCF de faire un Lyon à Nice ou un Paris-Nice. Mais pareil, c'est une histoire d'adaptation de l'offre et de la demande. Il est clair que partir au pied levé, oui, ça coûte cher, quelle que soit la distance.
Voilà, qu'est-ce qu'on avait d'autre à dire? Tu avais d'autres sujets? La grève de France Inter, tiens, c'est la radio, ça nous concerne. Donc, ils ont gagné une semaine de grève pour conserver 4 techniciens dont les postes étaient menacés. Et finalement, la direction a cédé. Les techniciens, pour le moment, du moins, resteront en poste à France Inter.
Val a perdu la partie, alors.
Je ne sais pas s'il l'a perdu ou s'il l'a gagné, ça dépend. Oui, si c'est lui qui avait décidé de la suppression, on peut dire ça.
Je pense qu'il n'était pas contre, oui. J'avais, à propos des conflits sociaux, on a appris aujourd'hui, cet après-midi et lundi, que finalement, concernant Virgin, donc la vente de tout ce qui fait le bonheur de nos petits appareils pour écouter ou regarder, surtout écouter. Donc Virgin, c'est reparti pour un mois, puisque le tribunal de commerce a prononcé le redressement. Alors, redressement, ça veut dire que dans un mois, ils font le point avec les redresseurs de tort. Ben voilà, les salariés de Virgil ont un contrat d'un mois. Il va peut-être être cadré dans le cadre du nouveau compromis historique, si bien nommé, si mal nommé par, par François Hollande. Les autres, j'ai vu que les employés de la Société Générale, ils sont quand même, ils manquent de solidarité. Ils se battent pour l'emploi et les salaires. Alors c'est quand même par les temps qui courent, hein, ils sont inconscients, ces salariés de la Société Générale. C'est l'intersyndicale, il y a tout le monde. Hein, évidemment, il y a des suppressions d'emplois, mais il y a aussi une revendication qui touche les salaires. Alors, on a suffisamment dénoncé leur patron pour dire, eh bien, eux, par contre, on va les encourager, mais il faudrait peut-être qu'ils aussi ils dénoncent leur propre patron, pas seulement sur le plan de leur propre survie de salarié, qui est tout à fait honorable, mais aussi comme agent producteur d'austérité et de malheur pour les autres catégories sociales des populations européennes et voire internationales. Alors, les souvenirs des employés de banque quand ils commençaient à bouger, c'était des grands mouvements sociaux. Hein. C'était très fort, là, déjà avant-guerre et puis après-guerre, jusque dans les années 70-80. Quand les employés de banque se mettaient en mouvement, c'était des grèves dures qui pouvaient durer des fois plusieurs semaines. Et aujourd'hui, on n'en est pas là. Hein. Je crois que les salariés de la Société Générale doivent se sentir un peu seuls, mais c'est aussi la situation qui est comme ça.
Voilà. Avais-tu d'autres sujets, Robert, avant qu'on passe au culturel ? J'ai pas grand-chose, d'ailleurs.
Non, un peu. C'est vrai que on est toujours un peu quand il y a des guerres qui se déclenchent, ça fait que la diversion est si forte que on a l'impression qu'il se passe plus rien.
Oui, on a du mal à avoir des informations sur ce qui se passe ailleurs et autour.
Oui, c'est nous ce qu'on essaye, ce qu'on sait, mais nous-mêmes, si on n'arrive pas à retrouver des sources d'autres informations, effectivement, on est victime de tous en rang et je ne veux voir qu'une seule tête.
Bon, on va faire un petit peu de culturel. Tiens, je sais pas coutumier, mais il y a un petit bouquin qui est paru récemment qui s'appelle « Les soldats du refus pendant la guerre d'Algérie ». C'est les témoignages, ça a été la transcription de conférences, enfin d'interventions dans un colloque par des gens qui, pendant la guerre d'Algérie, ont refusé de se battre d'une manière ou d'une autre, soit des journalistes d'ailleurs, avec Algérie Républicain. Alors il y a Alban Lichty, il y a Alleg, il y a Jean Clavel, il y a Raphaël Grégoire, il y a Jean Vandard, Yolande Lichty, William Sportis, Alfred Gerson. C'est pas trop disponible, je pense, dans les librairies. On peut se le procurer, ils vendent ça à 2 euros, faites pour compris, auprès de l'ACA, hein, l'Association contre le colonialisme. Agir contre le colonialisme aujourd'hui, exactement, qui est 26 rue Victor Hugo à Malakoff, 92 240. ACA, 26 rue Victor Hugo, Malakoff, donc 12 euros port compris. C'est bien instructif, ça donne des informations, une vision, surtout qu'on n'a vraiment pas facile à trouver ailleurs à travers ces gens. Et il y a aussi tout une réflexion sur les ambiguïtés et les difficultés. La plupart étaient membres du PC. Avec la position institutionnelle du PC pendant la guerre d'Algérie, qui ne pouvait pas vraiment les désavouer, mais qui ne pouvait pas les soutenir non plus. Vous comprendrez beaucoup mieux tout ça en lisant ce petit bouquin d'une centaine de pages. Et puis, à Vaux-en-Velin cette semaine, le festival du film court francophone, Un point c'est court, c'est du 11 au 19 janvier, donc c'est commencé avec pas mal, beaucoup de choses, donc il s'agit de films un petit peu, comme le nom l'indique, film festival du court-métrage, c'est un peu court comme titre, parce qu'en fait il s'agit de films qui ont une connotation sociale et politique qui est toujours marquée. Pour en savoir plus, je ne vais pas vous lire le programme, vous regardez Un point c'est court sur Internet, vous allez trouver tous les renseignements, tous les films disponibles. Voilà, ben on va peut-être...
Oui, vas-y. Peut-être un mot dans le domaine culturel. On a démarré en PACA l'année culturelle européenne Marseille 2013. Marseille 2013, ça a démarré donc samedi. Ça devait être inauguré par Hollande, ben naturellement, qui avait un conseil de guerre à tenir.
Il a trouvé un bon prétexte pour pas y aller là-bas.
Oui. Alors c'est assez surprenant parce que comme il faut que les médias ont la consigne de vendre du Marseille pendant plusieurs mois, donc d'un seul coup on a rebadigeonné Marseille au sens figuratif, on a rebadigeonné Marseille, c'est-à-dire que on oublie les mafias, on oublie les meurtres, on oublie le chômage, on oublie l'état délabré des baumettes, on oublie tout ça, hein, c'est et on ne parle plus que d'un Marseille qui serait une étoile brillante au firmament de la culture à cause de son histoire géopolitique et géo-méditerranéenne. C'est assez surprenant, mais quand on sait que les bailleurs de fonds sont maintenant beaucoup plus des privés que des publics, il faut rentabiliser au maximum toutes les dépenses qui ont été faites, et c'est un peu l'esprit. Bon, ceci dit, il y a sans doute quelques belles choses à voir, et on aura l'occasion de parler peut-être de ce musée de la Méditerranée qui serait sans doute ce qu'on pouvait faire de moins mal dans ce cadre-là.
Tu nous iras voir et tu nous raconteras.
Oui.
Voilà, ce Canu Info se termine avec quelques minutes d'avance. On va vous laisser les passer en compagnie de la musique de Gérard Lapalu, l'accordéon. Il sera rediffusé demain matin à 8h et vous pourrez également l'écouter sur Internet, ad vitam aeternam, sur le blog des Canu Info, sur le site de Radio Canu. Ne quittez pas l'antenne, et puis pour ce qui est de notre équipe, rendez-vous lundi prochain, mais il y aura d'autres Canu Info tous les jours de la semaine sur notre antenne. Bonsoir. We'll be right back.